Bienvenue dans ce nouveau Madame Talk avec la rappeuse marseillaise Lansky Namek. D'origine russe, marocaine et polonaise, Lansky Namek commence à rapper en CM1 pour combattre la dyslexie. Entre foot, graffiti, beatmaking et rap, elle fait ses armes au Cours Julien et à la Plaine à Marseille. Au fil des années, l'artiste construit le personnage de Lansky Namek, Lansky en référence au célèbre mafieux américain Meyer Lansky, et Namek du nom de la planète dans le manga Dragon Ball Z. Éclectique, elle peut aussi bien chanter de la soul ou du punk bien énervé que du boom bap ou de la trap. Fervente supportrice de l'OM, elle nous parle de sa passion pour son club, de son prochain projet qui verra le jour en 2021 et de sa famille qui lui a transmis sa fibre militante. Parmi les sujets qui lui tiennent à cœur, elle a choisi d'évoquer la loi sécurité globale, les camps de Ouïghours en Chine et les camps anti-LGBT+ en Tchétchénie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ?
Alors, je suis Lansky Namek, une artiste rappeuse du centre-ville de Marseille. Je fais du rap, du beatmaking et du graffiti. Là, récemment, j'ai pu faire un son pour mon Olympique de Marseille parce que je suis une fervente supporter et une grosse fanade de football en règle générale. Je suis une artiste de 21 ans et je suis en train de taffer quelques projets qui vont arriver dans l'année 2021.
Tu précises centre-ville de Marseille, c'est important pour toi ?
Ouais, représentante du centre-ville, parce que c'est le Cours Julien, c'est le CV, comme on dit chez nous à Marseille. C'est le centre-ville.
Qu'est-ce que ça représente dans le hip-hop ?
Marseille centre-ville, c'est voilà, comme les quartiers nord ont une puissance nord, nous on a eu Amel Afonki au centre-ville de Marseille, on a Kenny qui est du centre-ville, on a un gros noyau qui est très underground dans le centre-ville en fait.
Et j'ai lu que tu t'expliquais que tu avais commencé à rapper en CM1 parce que tu souffrais de dyslexie.
Exact. Voilà, et ben ça a été un putain de moteur pour m'aider à avancer et à combattre la dyslexie. J'écris énormément. C'est un peu plus tard que j'ai commencé à mettre ça sous forme de musique et à me développer dans le milieu artistique qu'est le rap. Parce que peut-être j'avais du mal à me livrer en public et il a fallu un peu de temps. Donc ça fait depuis 6 ans que je chantonne, on va dire, dans ma chambre. Mais après 4 ans que je fais des open mic, des battles d'improvisation, que je fais des concerts, un peu plus récemment, ça fait 2 ans. Et que je m'engage surtout dans ce mouvement qui est le hip-hop et dans l'underground notamment, où j'engage le dialogue avec des jeunes femmes comme des jeunes hommes pour les inciter à justement se développer dans ce milieu qui est assez mal représenté niveau féminin, mais qui le commence. Donc voilà, c'est important de le préciser parce que dans le centre-ville de Marseille, on a beaucoup de jeunes femmes qui rappent et c'est super de les mettre en avant, quoi.
Oui, j'ai l'impression que c'est un véritable vivier, Marseille, en fait. Enfin, en tout cas, ces dernières années, il y a un nombre vraiment incroyable de rappeuses, soit qui ont émergé, soit qui sont plus visibles. Est-ce que toi, tu constates ça aussi de ton côté ?
Oui, tout à fait, parce que j'ai, par exemple, eu la chance d'organiser des concerts avec mon crew de graffiti qui est le Quinte Flush, où j'ai réussi à organiser une scène totalement féminine qu'avec des artistes marseillaises. Et ben, je crois que c'est un des concerts qui a le mieux marché de ceux qu'on a organisés en 2019-2021. Ouais. 2020, excuse-moi.
Et juste pour en revenir à la dyslexie en CM1, est-ce que ça a fonctionné du coup comme méthode de rapper ?
Tout à fait. Ça aide énormément parce que ça te force à écrire, ça te force aussi à mettre en forme tes pensées parce qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle dyspraxie. Donc, c'est ne pas réussir à mettre en forme ses idées et à les appliquer au sens propre, quoi. Et donc, ouais, ça m'a aidé à organiser ma pensée d'une façon, mais aussi à me relire, à écrire correctement et aussi à avoir à les lire. Et aller parler. Donc ouais, ça m'a énormément aidé. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a donné cette idée, on va dire, et qui m'a beaucoup accompagnée dans cette démarche. Je remercie encore maintenant, quoi.
Est-ce que toi, avant ça, t'écoutais déjà du rap ?
J'en écoutais, je crois que c'était Goy Soy Eskila, les premiers morceaux que j'écoutais de Peura. Et je suis tombée complètement amoureuse de ce genre de musique, quoi. Donc ouais, j'ai eu la chance de goûter au hip-hop et au rap très tôt, donc assez jeune, et ça m'a pas lâché depuis.
C'est quoi les autres musiques que tu écoutais quand tu étais petite ?
Beaucoup de punk, beaucoup de rock. On va dire que ma famille, c'est pas forcément punk, mais j'ai tellement accroché avec cet univers, on va dire, assez bordélique, quoi. C'était génial de pouvoir voir ce que c'est l'underground avec de grandes lettres, quoi. Ouais. Sans se résigner à un style de musique, je suis plutôt éclectique, donc je pouvais écouter aussi du rail, comme je pouvais écouter un peu de pop, comme tout le monde, ce qui passait à la radio, mais beaucoup, beaucoup de rap et beaucoup, beaucoup de punk.
Et ton nom, Lansky Namek, vient de deux choses, du célèbre mafieux américain Meyer Lansky, mais aussi de Namek, qui est la planète dans le manga.
Exact.
Dragon Ball Z.
Exact.
En quoi ces univers et de gangsters et de manga t'inspirent ? Qu'est-ce qui est particulier dans ces univers pour toi ?
Moi, j'étais le genre de gamine qui était fascinée par l'univers mafieux, surtout que Meyer Lansky, il est d'origine polonaise et Moi aussi, je suis d'origine russo-polonaise, du coup, je me sentais très proche de ce personnage, sachant que dans la famille, bah voilà, on est tous un peu dans ce délire-là. On adore les films de gangsters, comme, enfin, on va pas parler de la vraie vie, on va parler plutôt du cinéma, etc. Donc, toujours fascinée. Et puis, je remarquais que c'était quelqu'un qui s'est jamais fait choper, qui a été décrit comme une personne qui pouvait devenir président, ça a été du bon côté de la barre, on va dire. Et l'univers manga, enfin plutôt DBZ, parce que c'est un des rares mangas que j'ai vraiment accroché, c'était pour rester dans ce côté inoffensif d'un enfant. Et aussi parce que je voyage énormément dans ma tête, comment dire, je me sens pas du tout accrochée au sol. Je suis quelqu'un de très évasif qui s'évade énormément, que ce soit à travers la musique, l'art, le cinéma, même le sport. Et voilà, je me sentais différente des autres personnes à l'époque quand j'étais gamine, même encore maintenant. Donc ça, voilà, c'était un moyen d'échapper à la réalité. Et donc voilà, c'était ce monde imaginaire, ce monde virtuel qui est maintenant, enfin virtuel, oui, peut-être, parce qu'au temps d'Internet, c'est difficile de ne pas faire autrement. Voilà, du coup, Namek, parce que j'étais sur une autre planète, pas pour dire que j'étais complètement perchée, mais que je ne voulais pas rester en mode dans ce monde coincé avec les problèmes du quotidien.
Et tu viens de dire que tu étais d'origine russo-polonaise, tu es également d'origine marocaine.
Marocaine, tout à fait. Du côté de ma mère marocaine, du côté de mon père russo-polonais.
Comment cette diversité nourrit ta musique?
Ah bien sûr, ben là je ne veux pas trop vendre le projet avant qu'il soit sorti, etc. Mais je m'inspire énormément des sonorités marocaines du côté de ma mère, mais aussi on va dire du côté engagé de mes grands-parents et parents du côté des pays de l'Est, soviétiques quoi. Ce côté résistance, ce côté aussi violon qui est bien bien connu de chez nous. Donc j'essaye un peu de toucher à tout et ça forcément ça influe sur ma musique. C'est la culture qu'on m'a inculquée quoi.
Tu viens de parler de tes grands-parents engagés. Est-ce qu'ils étaient militants politiques?
Voilà, ils étaient communistes à la création du parti, c'était des résistants antifascistes, antinazis, etc. Du coup, voilà, on m'a toujours appris ces valeurs anti-liberticides, toujours dans la générosité, le partage et la solidarité, le soutien, l'entraide. Donc oui, énormément engagée et ils m'ont transmis cet engagement. À l'heure actuelle, je pense que je suis une personne qui est engagée, clairement, bon, du bon côté, on va le préciser, de gauche, LGBT. Voilà, donc je suis contre tout ce qui atteint à nos droits et ce qui touche à mon prochain. Donc, tout ce qui est intolérance, etc., c'est banni.
Je te propose d'écouter le freestyle Waddle qui est sorti en juin 2020 et on en parle juste après.
Prends pas la tête à la folie, on vise le rêve à la Bowie. Oh oui, Paris Saint, je vois le règne aboli. Hey, tu es en train de baliser, mais rate la peine en folie. Tes sons en rappel grave de nuit. Sans mon radonie, déjà sorti, tous en train d'agoniser. Y'en a qui jouent les Escobar, j'préfère la play et la scroll blanc. Hey, partout de temps, peu des dollars, mais volant le daron salamé. Sors des tonnes de bobards, mais n'auront jamais mon armée, tais-toi, hey, et moi spring comme Bouna, hey. Marseille, pas qu'une question de stat, le toast entier de devient le stade. Me dis pas que t'as pas versé de larmes, on a tous su aller devant un putain nos armes. Désormais ton mal est du cause, sauf c'est comme sauzé, je pas les dispose. Des pièces de puzzle, N-A-M-E-K, extraterrestre comme moi d'elle. Je vais pas me condamner, t'entonner, comme toi on a la ferveur. On est comme on est, ça leur pendé, qui est vraiment majeur. Je vais pas me condamner, t'entonner, quand on a la ferveur. On est comme on est, ça leur pendé, qui est vraiment majeur. Sacré pour l'OM. Pour un vrai diffo, les plus beaux diffo, mes baisses de prouesse. 120 piges de showbox, tout comme à Bologne, welcome to Vélodrome, ouais. Je vais pas me condamner, t'entonner, quand on a la ferveur. On est comme on est, ça leur pendé, qui est vraiment majeur. Je vais pas me condamner, t'entonner, quand on a la ferveur. On est comme on est, ça leur pendé, qui est vraiment majeur. Je veux voir vibrer les straps.
Donc ce freestyle raconte en gros ta passion, on peut dire, je pense, pour l'OM et pour le foot.
Waddle, Magic Chris, un des plus grands joueurs qui a été à l'OM, pour moi, je pense que c'est un patron, c'est un seigneur, il est extraordinaire. Je suis complètement fanat de son jeu, j'étais impressionnée, même si je n'ai pas pu vivre sa grande époque, rien qu'en voyant des rediffusions. J'ai ce qu'on appelle la curiosité du ballon. J'ai vu des matchs qui n'ont pas eu lieu quand j'ai faim, qui je n'étais pas née quoi, quand ça s'est passé. Parce que juste, je cherche à savoir, à apprendre, que ce soit dans le football ou d'autres sports, ou même en règle générale. Donc oui, donc je cherche, je vais dans les annales chercher des anciens matchs qui ont pu être super, comme Maradona, le voir jouer, j'ai jamais pu. J'ai cherché à voir ce genre de match.
Et quelle place le foot occupe dans ta vie aujourd'hui ?
Je pense que c'est avec le rap, c'est ce qui prend le plus d'espace, le plus de temps et ce qui me fait le plus de bien. Je suis vraiment engagée en tant que fanatique. Je suis très engagée pour le ballon et pour l'OM surtout. C'est pour ça que j'ai pu représenter mon club à travers ce freestyle. D'ailleurs, ça a été un honneur et je suis ravie d'avoir pu contribuer autant à la musique marseillaise, mais aussi à celle de l'Olympique de Marseille.
C'est marrant parce que le foot et le rap, ils semblent super liés à l'identité de la ville de Marseille. Et j'ai l'impression que c'est presque des modes de vie pour les Marseillaises ou les Marseillais, plus que de simples activités, en fait.
Complètement, complètement mode de vie. Je pense que je vis pas sans football. Et ce qui est beau à l'OM, c'est que c'est un club qui est basé sur la passion de ses supporters. Pas comme certains clubs, pour pas citer le nom, parce qu'ils ne méritent pas, qui sont basés sur l'argent d'autres personnes, comme les Qataris, etc. Nous, on a un club qui est vraiment ancré dans nos valeurs. Enfin, plutôt, nos valeurs sont ancrées dans le club. C'est-à-dire que c'est cette idée de solidarité, de soutien et d'encouragement mutuel, d'une part, mais aussi qui est toujours présent. Il est omniprésent, cet engagement pour l'OM. C'est surtout, voilà, comme on peut remarquer, il y a des maraudes qui sont organisées par des clubs de supporters pour aider à Noël les gens, autant que pendant le Covid. C'est vraiment inscrit dans les valeurs de la ville, quoi.
C'est quoi les points communs que tu vois entre le foot et le hip-hop ?
C'est que souvent, en fait, c'est des personnes qui font tout pour réussir à leurs rêves. Et généralement, on va pas se mentir, voilà, c'est populaire. C'est un sport populaire, c'est une musique populaire et qui touche beaucoup de personnes. Maintenant, encore plus avec l'ère d'Internet, c'est la musique le genre de musique le plus écouté. Et le football, c'est fédérateur et ça rassemble. Comme le rap à travers les textes ou à travers les instrus, c'est fédérateur et ça rassemble.
Est-ce que tu dirais du coup, bon après le terme est très galvaudé, mais que tu fais du rap engagé, entre guillemets ?
Oui, totalement. Après, j'ai certains textes qui vont être plus, on va dire, mélancoliques et assez basés sur moi, sur mes expériences de vie. Mais à travers tout ça, j'essaye de pouvoir décrire ce que je vis, ce que je vois, ce que je ressens et aussi ce que ressentent les autres. J'essaye de parler de la société, de la décrire en tant que telle, c'est-à-dire sans prendre de pincettes, quoi. Et s'il faut balancer, j'hésite pas à le faire.
Est-ce que tu sais quelque chose aussi que tu vas rechercher dans les artistes que tu écoutes ?
Comme j'ai pu te dire tout à l'heure, je suis assez éclectique niveau musique, donc je peux écouter que ça soit du rap, du jazz, peu importe, mais aussi des sons qui sont plus dansants. Mais après, oui, en termes d'artistes engagés, j'en écoute énormément, que ça soit Furez, Barbarossa, Kazé, j'écoute même Mélan, un ami à moi. On va dire que j'ai une bonne culture à ce niveau-là parce que c'est forcément ce qui m'a intéressé dès le plus jeune âge. Quand j'ai commencé à faire du rap, c'était du boom bap, c'était du old school. Donc, on ne va pas parler de soi, de grosse berline et de bitch, comme on dit. Donc, forcément, oui, je suis plus attirée par des musiques authentiques qui parlent de choses qui sont réelles et qui sont intéressantes pour le coup, parce que ce n'est pas le nombre de zéros sur le compte de banque de tel artiste ou tel artiste qui est intéressant. En soi, c'est ce qu'il va dire dans ses textes, c'est le message qu'il a envie de faire passer.
L'illustration en musique, on va tout de suite écouter le titre Flashball qui est sorti en mai 2020.
Non mec, qu'un flash crew, sabre, c'est pour Zineb et tous les autres. Le vacarme gronde, le détonnement des bombes sont pas créés l'étonnement. Si seulement prenez le temps de nous écouter une seconde, n'aurait pas besoin d'être virulent. Triple sentence, des bâtiments s'effondrent, des habitants sombres dans des décombres de ciment de béton, des tombes dans lesquelles on s'enfonce en silence, sans vigilance. Juste des violences policières, le silence du ministère veulent nous faire taire en prison nos vertèbres. Ils enterrent et enferment nos frères, n'a enduré le pire, même fait flipper le maire. Ville l'obscénité qui est esbia, coup de lance-pierre, voilà le malaise. Range ton arbalète, font des choses pas nettes. Accuse la planète entière, accuse la planète entière. C'est pour Zineb et tous les autres, des corps inertes sous le coup des codes. Ça serre les coudes quand ça couche nos potes. Vie de débrouille, déroulé noble, déverrouille les portes. puis faire mon os, fini au sol à cause des flashballs. C'est pour Zineb et tous les autres, des carinières sous le coup des codes, serre les couilles quand ça couche nos potes. Ils te débrouillent, déroule les nobles, déverrouille les portes, puis faire mon os, fini au sol à cause des flashballs. Suffit du bombe lacrymo qui explose, d'un fixe au commando qui s'expose. Un titre, un tir, un flashball. Ses yeux font flipper les gosses, sans bip et la bac nous égorge. On pose tranquille à calmer les forces du désordre. Les faffes nous salient, les cops nous dégomment. Ensemble on nous dénigre, la police assassine, les politiques nous rendent malades. Au fil des cachots, ceux qui n'ont pas l'âge vendent nos armes en étalage et ils s'étonnent du carnage. Marre de voir emprisonner nos potes dans des tôles, avec un bon ravalage. Sabotage et nos vies, que faire, fait où se battre. Jeter langue ou tendre les voiles, t'as connaître la noyade. Trop de questions qu'ils esquivent, tout qu'on s'enivre, un coup de breuvage manque passable. Ils savent que ça va passer, si c'est toujours pas ça, pas on va ressasser. On est que de passage, mais on peut pas s'effacer. C'est pour Zineb et tous les autres, corps inerte sous le coup des codes. Ça serre les coudes quand ça couche nos potes. Vie de débrouille, déroule les nobles, déverrouille les portes, que ferme mon os, fini au sol à cause des flashballs. C'est pour Zineb et tous les autres, corps inerte sous le coup des codes. Ça serre les coudes quand ça couche nos potes. Vie de débrouille, déroule les nobles, déverrouille les portes, que ferme mon os, fini au sol à cause des flashballs.
Donc dans ce titre, tu parles notamment de ce qui s'est passé rue d'Aubagne à Marseille avec l'effondrement de deux immeubles insalubres en 2018,
exact.
Avec la mort de 8 personnes, qui a un peu lancé un débat en fait en France sur la question des habitats indignes qui n'était pas du tout prise en compte.
Voilà. Ainsi que Zineb Redouane. En fait, c'est un son que j'ai écrit pour l'anecdote. Je l'ai écrit le jour de l'assassinat de Zineb Redouane, qui a été lâchement abattu, excusez-moi du terme, hein, par la police de Marseille. Donc voilà, on était tous assez enragés, très très énervés, on était meurtris, on était vraiment mal en fait que rien ne se passe par rapport à autant de choses dans cette ville, que ça soit mis sous silence. Donc il fallait que Marseille se réveille, et je me suis réveillée moi aussi en écrivant justement ce texte, et j'ai pas été la seule à écrire un texte sur ce thème là c'est que tout Marseille a été touché, tout Marseille, et je pense que la France aussi d'une façon.
Est-ce que tu penses qu'on ne se rend pas forcément compte, quand on est extérieur à Marseille, de situation, par exemple, sur l'insalubrité des habitats? Parce que quand tu regardes un peu les chiffres, tu te rends compte que Marseille, en fait, cumule un nombre assez hallucinant d'habitats dits indignes.
C'est mis sous silence par l'ancienne mairie, par Godin. Maintenant, on a une nouvelle maire, donc on verra ce qu'elle fera de Marseille. Mais par rapport à notre ancien maire qui a enchaîné les crasses et les bavures, on ne pouvait pas trop ouvrir notre gueule, c'était mis sous silence. Et je pense que non, d'une certaine façon... ce qui s'est passé à Marseille, c'est arrivé autre part. Ça peut arriver à Paris, ça peut arriver à Lyon, enfin en banlieue lyonnaise. Le fait de maltraiter ou de délaisser les quartiers populaires, de les laisser dans des enclos comme en cité, enfin désolé de dire ça, mais c'est le mot, on les fout loin du centre-ville qu'on veut en bourgeoiser au profit du tourisme ou du luxe, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc je pense qu'en fait, ce qui s'est passé à Marseille, de toute façon, ça devait arriver. À un moment donné, quand on laisse de côté les laisser pour compte, clairement, c'est le mot qu'on nous donne à nous, les gens qui sont issus de classes populaires, ça devait arriver et ça arrivait. J'espère que ça a réveillé les consciences, surtout que ça a dû arriver avant et c'est été mis sous silence, comme d'habitude, malheureusement.
Et est-ce que c'est habituel pour toi de t'inspirer comme ça de faits de société pour écrire des morceaux?
Tout à fait. C'est-à-dire que ça vient, c'est ce que je ressens, c'est là, c'était de la colère en l'occurrence. Et moi qui suis une personne très éveillée et qui fait attention à tout ce qui est actualité, qui est très engagée, forcément, il fallait que j'écrive. Je peux écrire autant de mon quotidien qui peut être cool ou mauvais, mais en l'occurrence, j'ai l'habitude d'écrire sur ce genre de sujet parce que je me sens touchée et ça m'impacte.
À chaque fois, tu fais tes propres instrus ou tu collabores avec des beatmakers ou les deux?
J'ai collaboré avec des beatmakers, j'en ai fait d'autres. J'ai travaillé avec Sizi en l'occurrence. Et là, actuellement, je travaille avec le Labo Clandestino pour mon prochain projet, avec qui je pense qu'ils vont faire la plupart de mes instrus parce que je m'entends super bien avec eux et que c'est une super qualité, quoi.
Est-ce qu'il y a des artistes, quels qu'ils soient, hein, français ou internationaux, avec qui tu aurais envie de collaborer?
Furax Barbarossa, franchement, ça serait génial. En international, je voudrais bien faire avec des Rital ou avec des Marocains, par exemple Capo Plaza pour le côté Rital et peut-être Wenza ou Snor pour le côté marocain parce que j'écoute énormément de rap marocain. De rap allemand aussi, la liste serait très 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 longue. Ça serait difficile de pouvoir te dire deux ou trois artistes.
Comment tu les trouves tous ces artistes étrangers? Tu cherches sur le net ou ils viennent à toi entre guillemets?
Parfois, c'est à la bonne surprise, en cherchant sur YouTube, etc., je tombe sur un artiste que je ne connaissais pas, donc les joies de l'algorithme, quoi. Et parfois, on me le conseille, comme j'ai de la famille là-bas, il me dit « Ah, écoute, ça pourrait te faire plaisir », ou même en voyage, Ben, autant on pouvait voyager, parce qu'avec le Covid, c'est un peu complexe, là, mais ouais, non, avec les voyages, avec le hasard et aussi les connaissances. Donc, ouais, pas mal de culture. Le rap, il n'a pas de frontières pour moi, ça va. Je m'en sors plutôt bien niveau artiste, j'en connais pas mal.
Il y a quelques semaines, je pense que tu n'as pas pu rater ça. Il y a sept rappeuses marseillaises qui ont sorti une cover de Bande Organisée. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative?
Bah écoutez, moi je devais la faire à la base. Malheureusement, je me suis retirée du projet parce que je ne pouvais pas, j'avais des problèmes à régler. Je suis très contente que des femmes aient pu évoluer dans ce milieu-là et montrer qu'elles sont présentes. C'est-à-dire que ça a mis une claque quand même au rap français. Parce que là, comment dire, le rassemblement, ça fait la force en soi. Et elles ont réussi à faire leur buzz et ça fait plaisir de voir bah, des copines, non seulement parce que je les connais, mais aussi des femmes en règle générale qui réussissent à percer, entre guillemets.
Quand je t'avais interviewé en 2019, tu me disais en gros que ça te saoulait la différence qu'on voulait faire entre les femmes et les hommes dans le rap.
Exact. J'ai toujours pas changé d'avis. Je suis toujours humaniste et non pas féministe. C'est-à-dire que je pense au bien-être de tous et non pas que d'une certaine catégorie. Malheureusement, je pense que ça serait bête ou stupide de se résoudre à ne défendre qu'un côté quand on pourrait défendre tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des injustices de tous les côtés, dans tous les bords. Il faut pouvoir avoir, comment dire, être objectif en fait. Objectif, pardon. Et là, pour le coup, oui, il fallait que des femmes se rassemblent pour montrer qu'il y a de la force. Après, j'espère que on va pouvoir voir d'autres déclinaisons de tout ça, des groupes de femmes mixtes, enfin, femmes, hommes, trans, etc., peu importe. Donc là, je pense que justement, avec le temps qui est passé depuis, on a pu voir beaucoup de femmes sur les radios, autant sur les streams, etc. Donc je pense qu'on est à une heure où on n'a plus tant besoin de montrer que la femme est présente, mais plutôt de montrer que tout le monde l'est.
Bande organisée, au début, quand le clip a été mis en ligne, c'était quand même super violent, les
Ah,
commentaires.
j'ai vu les femmes à la vaisselle compagnie. Bah, écoute, bah, il y aura toujours des cons, ça on n'y peut rien. En revanche, je vois que la manière, enfin, les façons de penser commencent à évoluer, c'est déjà ça.
En fait, est-ce que le prix à payer aujourd'hui, c'est quand même encore pour des femmes de se prendre des commentaires sexistes dans la gueule, quoi?
Après, les gens évoluent, c'est ce qui est plutôt bon. Mais après, voilà, une femme, comment elle va faire pour percer? Soit elle se rassemble et montre qu'elles ont de la force, soit elle monte son boule, soit. C'est compliqué parce que l'attente d'un homme. Envers une femme, elle est beaucoup plus critique en fait. Il va falloir qu'on soit deux fois plus performante pour un auditeur du sexe masculin qui est assez. On va pas se mentir, il y a beaucoup de machos encore à l'heure actuelle. Je pense que voilà, il y aura toujours des cons, mais que ça peut toujours changer d'avis.
Écoute, c'est le moment de passer à la seconde partie de cet entretien, donc avec trois sujets d'actualité que tu as choisis, dont tu voulais discuter aujourd'hui. Et le premier thème que tu voulais aborder, c'est l'interdiction de diffuser des images de policiers, donc en lien avec ce fameux article 24 de la loi relative à la sécurité globale, qui en gros bah, fait polémique depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que dénoncé comme liberticide par tout le monde, en fait, hein, des journalistes, des
Exact.
ONG, même l'ONU, enfin
De
voilà.
par l'ONU, voilà ce que j'allais te dire, par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est déjà une liberticide, donc atteinte aux libertés fondamentales. C'est une atteinte à la presse, mais aussi c'est une obstruction à la justice, selon moi. Dans le cadre de violences policières ou autres, hein, on ne pourra pas justifier, enfin, voilà, sans vidéo, il y a beaucoup, beaucoup de violences policières qui ont été passées sous silence parce qu'il n'y avait pas de vidéo. Et parfois, justement, grâce à des vidéos, on a pu sauver plusieurs personnes, hein. Après, cette loi, elle a été affiliée à Copwatch. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce site
Si,
internet.
complètement, oui, bien sûr. C'est des assos en fait militantes dans plusieurs pays qui surveillent la police en fait pour dénoncer les violences policières tout simplement.
C'est pour ça. Donc, c'était en 2011 que ce site a été interdit. Ils avaient peur que, en fait, toutes ces images servent à faire une banque en ligne et que ces personnes, enfin, que ça les empêche de vivre leur vie dignement, entre autres, hein. En gros, cette loi, je pense qu'elle a été là pour protéger les flics, non seulement, mais aussi parce que c'était quoi, une histoire d'atteinte et d'intégrité physique ou psychique. Donc, ben, c'est une loi qui porte à débat, non seulement parce que la presse s'est révoltée, il y a eu des assos et des syndics de journalistes qui ont fait des pétitions, il y a eu des manifestations, et encore une fois, ce qu'on a pu remarquer, c'est que si on n'avait pas filmé certaines actions, ben, on aurait quand même pas mal de monde qui serait dans la merde. Rien que ce samedi 5 novembre, en manifestation à Paris, il y a eu un jeune homme qui s'est fait arracher le doigt, quoi. Et avant même cette manifestation, encore, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les débats noirs, etc., mais pour le coup, c'est sorti de 20 minutes, hein, j'ai la source devant les yeux. Il y a une sorte de syndic de groupe Facebook de flics, je précise d'extrême droite, qui s'appelle Hors Service, qui a appelé à la violence envers les manifestants. Et enfin, j'ai vu une phrase qui m'a choquée clairement, c'est la peur ne changera pas, enfin, dès que la peur changera de camp, dès lors que les sauvages entendront résonner la détonation létale d'un 9 mm ou d'un 6 hour. Ça, c'est ce que dit la police, en gros. C'est Voilà. Comment tu veux pouvoir laisser passer cette loi quand tu as des forums de flics d'extrême droite qui sont pour la violence et qui engagent les gens à l'être, quoi.
Pourquoi tu penses, d'après toi, qu'en France, on a autant de mal, on est autant dans le déni face à ces violences policières ?
On a eu aussi des ministres de l'Intérieur qui faisaient passer sous silence parce qu'il y a beaucoup de copains-copains. On veut préserver l'image du bon flic. On ne veut pas que la nation se rebelle parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est pays des droits de l'homme. On est une nation qui s'est toujours révoltée contre l'oppression. Donc, je pense que c'est une histoire d'image non seulement, mais aussi, ça ferait perdre énormément d'argent. Combien de flics ont été connus pour ça? Et malheureusement, c'est pas qu'un cliché.
Est-ce que toi, tu es allé manifester?
Tout à fait. Parce que moi, je trouve que c'est une atteinte à nos droits les plus fondamentaux. Je pense que, ayant été victime de violences policières, ayant vu des amis se faire tabasser par des flics, ayant eu des potes qui ont failli se faire violer par des flics, il faut ouvrir sa gueule. On ne peut pas se laisser marcher dessus, quel que soit le projet de loi qui... sera une atteinte à la justice, une atteinte à nos droits, je ne laisserai pas passer. C'est-à-dire qu'en tant que personne engagée, je ne pourrai pas me taire. Il y a des choses qui ne passent pas. Et quand il y a autant de violences policières dans ce pays, on ne peut pas en plus se permettre de fermer notre gueule et de laisser passer un projet pareil.
Voilà, il y a la loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, mais les députés LREM, ils disent qu'ils vont... face à la controverse, en tout cas, ils disent qu'ils veulent réécrire complètement l'article 24.
Ben, y a Macron qui l'a ouvert aussi. Enfin, désolée de comment je m'exprime, hein, mais j'ai un peu la haine quand j'en parle. Le président Macron qui n'avait pas encore fait son discours par rapport à ça, il a fait récemment et se contredit dès le soir et le lendemain, il dit une autre version. Donc, pour le coup, on n'aura pas encore une réponse nette avant quelques jours, mais je pense que le mieux, ce serait d'abroger cette loi. Mais malheureusement, qui sommes-nous pour pouvoir se permettre de l'ouvrir selon eux?
On va faire une petite pause douceur et écouter ton titre « Océan ».
J'irai dans la mer, dans l'or, sur le bitume. Je vise la mer, les étoiles et la lune. Je m'allumais pour air comme j'allumais la mer. J'ai vu des dunes, des montagnes de misère. J'assume mes emmerdes, mes galères. J'irai naviguer loin des terres. Mes clips, c'est dans les airs d'une symphonie amère. Une vague de remords, mon âme je remords quand je l'étors. Je pense plus à la corde, d'un commun accord. M'en irai, m'enivrer encore. Le passé nous dévore et je pensais à la mort. Est-ce vrai? J'ai assumé mes torts, torturé mon corps, enduré. Suis les corps d'un arbre desséché. Mes phrases et mes armes, mes phases et mes larmes, mes péchés. J'efface les drames, les déchets. Crame les stars, les stades, les déchets. Remplir les stades, évincer les stars. Un autre stade, je passais. Ouais. Efface les drames, les déchets, crame les stars, les stades, les péchés, remplir les stades, les ventres et les stars, un autre stade passé. C'est loin quand la route on te barre. L'échange est moins intéressant quitte à me battre. J'évite les barres, je pourrais me perdre en chemin. C'est loin, l'océan, c'est loin. L'océan, c'est loin. La détresse, Marseille, c'est la paresse. Les mecs, je sais que le stress, je rêve de la mer, mais je traîne dans la mer, et j'ai couru, bref. Je cours à ma paire, je m'en sortirai. Le poids est échelle, je rêvais. Je mets dans la pierre, un pied sous terre, voilà ma neige, le coup est élevé. Élevé dans un monde où tout baigne, tout doux baigne, tout fourré. Dans l'ombre sous écrou, écoute ces trous de merde. Trace ta route ou crève, des rats, des gourds et vent des champs. J'envisage l'échange, je veux la coupe, à titre des chances. S'il faut move, je tente ma chance. Voir rouge, bouge, quitte à perdre les jambes. Séance est loin quand la route on te barre. L'échange est moins intéressant, quitte à me battre. J'évite les barres, je pourrais me perdre en chemin. Séance est loin, l'océan, c'est loin. L'océan, c'est loin. Mon tranche des mains, ça dément, je dérange, je sais bien. Y'a des pans, des chemins sinueux, des nœuds pleins, des ménages. Les mélanges apaisent le chagrin, mais le grain de folie devient sérieux quand je sers pour rien. Les cieux couleur sur font des siennes, loin sont les saints, donc l'enfer règne. On vend nos reins pour des rires et des reines. Je tends les rênes, quitte à tendre les frères qui me traînent. Qui sont les traîtres, qui sont les maîtres du destin? Le dessin éterne, les défaites s'enchaînent sans même une étreinte. Point de retraite, la vie s'est éteinte dans ce corps frêle en une feinte. Triste refrain qui s'enchaîne, quand vient la fin, quand vient-elle? J'appelle les miens et les miennes, attèche les miettes. Séance est loin quand la route on te barre. L'échange est moins intéressant quitte à me battre. J'évite les barres, je pourrais me perdre en chemin. Séance est loin, séance est loin. Séance est loin. L'océan c'est loin quand la route on te barre. L'échange est moins intéressant quitte à me battre. J'évite les barres, je me perds en chemin. Me perds en chemin. L'océan c'est loin quand la route on te barre. L'échange
chargez-moi de sang qui t'a me battre. J'ai vite de les pas, me perdre en chemin. Pourrais me perdre en chemin. Séance est loin. Séance est loin. Séance est loin. Séance est loin. Séance est loin.
Est-ce que tu peux présenter ce titre? Est-ce que tu peux expliquer de quoi il parle? Parce qu'il est assez sensible, je trouve.
Oui, alors Océan, je l'avais écrit justement devant la mer en sortant du travail. Je venais d'avoir un gros problème avec mon patron qui avait laissé de me toucher compagnie. Voilà, encore le problème d'un homme machiste. Donc, avec tous les problèmes que j'avais, je regardais ma ville et je me disais, putain, c'est le bordel. Soit les mecs essaient d'en faire trop, soit... c'est la merde à Marseille, on oublie voilà, la bonne mère compagnie, on regarde plutôt dans nos ruelles sales et insalubres. Ce qui ne va pas, c'était se mettre aussi face aux problèmes de ma ville, mais aux miens aussi. Je parlais du bitume, je parle du fait qu'on rêve de beaucoup de choses, mais qu'on est coincé dans justement la city. Pour moi, c'est un zoo à l'heure actuelle. Hein. C'était, voilà, je parlais de choses qui n'allaient pas, de choses qui m'énervaient surtout. Il fallait que je lâche ça en musique et je l'ai fait avec douceur pour une fois. À la base, je devais faire partie d'un projet, mais j'ai décidé de le laisser en single et on verra sur les autres projets ce que je ferai. Petite surprise.
Alors, le deuxième sujet que tu souhaitais aborder aujourd'hui, c'est la question des camps ouïghours en Chine. Donc, cette ethnie musulmane sunnite qui est un peu traquée, en fait, internée et torturée dans des camps dans le nord-ouest de la Chine. Apparemment, les chiffres avancés, c'est qu'il serait plus d'un million, selon Amnesty International et l'ONU. Et la réponse de la Chine depuis des années maintenant, c'est de dire, alors d'abord la Chine a nié, et puis après elle dit mais non, ce sont des centres de formation professionnelle, voilà.
Bah là j'ai encore mieux, c'était il y a deux jours le discours de la porte-parole du gouvernement chinois, de la région du Xinjiang, désolé, qui nous disait que depuis 2016, il me semble, 2018, depuis 2018, 90 pays ont pu envoyer des délégations, dont la France, hein, et ça faisait plus de 1000 personnes qui ont pu visiter le Xinjiang. Et qui témoigne de la prospérité et de la stabilité de cette région, quoi. La Chine nie encore les choses, mais on peut regarder quand même ici international, ou par exemple l'IPVM, qui est un cabinet de recherche sur la reconnaissance faciale, qui balance qu'il y a plusieurs sites et plusieurs entreprises qui surveillent le peuple, hein, afin de pouvoir dénoncer les musulmans, les Ouïghours, enfin, des groupes ethniques d'origine musulmane en général, dont la Huawei, ça fait un gros scandale.
Oui, qui apparemment a aidé, en fait, avec des systèmes de reconnaissance faciale, à identifier ces Ouïghours pour les dénoncer, en fait, aux autorités, quoi.
Tout à fait. Là-bas, il y a des prélèvements d'organes qui sont illégaux, il y a eu des viols, il y a des passages à tabac, des tortures de toutes sortes. Ça fait depuis 1949 qu'il y a déjà ce problème, quand le Xinjiang a été, quand ils se sont ralliés à la Chine, quand c'est devenu une province chinoise. Il y a toujours ce problème de racisme qui a été là-bas, mais c'est surtout que maintenant, ils font passer ça pour des cellules antiterroristes, déjà, dans des camps de rééducation. Le mot rééducation, avec ça, ça pose un problème.
Ce troisième sujet que tu as choisi, c'est on reste dans des camps, mais dans un autre contexte et dans un autre pays, c'est les camps LGBT, voilà, en Tchétchénie.
Ça me touche énormément parce que je suis partisane de la cause LGBT, plus. Hein. Je suis complètement avec eux et je me bats pour leurs droits, pour nos droits. De toute manière, je me considère comme LGBT. Ce que j'ai pu remarquer là-bas, c'est que c'est mis sous silence depuis 2017 et que ça vient d'une initiative du gouvernement tchétchène, mais c'est soi-disant à cause du projet Gay Russia. Gay Russia, c'était quoi? C'était en fait des homosexuels LGBT en règle générale qui voulaient organiser des gay pride dans le Caucase du Nord. Et la Tchétchénie, du coup, n'a pas accepté. Et on considérait que c'était des personnes déviantes, des nuisibles et des personnes de race inférieure. C'est ce qui a été dit par Alvi Karimov, qui est le porte-parole du gouvernement tchétchène. Depuis 2017, il y a Novaya Gazeta, qui est le journal de là-bas, qui a pu interviewer des personnes et ressasser en fait cette purge, quoi. Donc, elle décrivait qu'il y avait déjà plus de 2000 personnes qui avaient été internées, qui ont été battues, violées avec des bâtons et ils étaient torturés avec des électrochocs. On ressasse tous les jours, même encore maintenant, des témoignages. Donc, courrier international, Daily Mail, quand on parlait, et c'est encore actuel. C'est dans l'idée, c'est-à-dire que maintenant, le ministre de la Justice, Alexander Konovalov, il en parle encore et il nie complètement les faits. Il dit que c'est des rumeurs, c'est des présumés, suspicions. Ils peuvent venir visiter, mais qu'il n'y a rien, quoi. Je trouve ça horrible.
Souvent, les propres familles des personnes LGBT...
Elles sont contraintes à balancer.
Voilà, c'est ça. Elles sont contraintes par les autorités à désigner les membres de leur famille, cette personne est LGBT ou entre guillemets déviante. Moi, j'avais lu, je me souviens, après, ça remonte à il y a quelques années, mais des histoires vraiment atroces de personnes comme ça qui se sont fait assassiner par leurs proches et qui ont été genre enterrées dans le jardin familial.
Généralement, aussi. Si tu balances pas, c'est toute ta famille qui va prendre. Et c'est surtout que au niveau d'identité tchétchène, même russe en règle générale, c'est la mère patrie, la famille c'est secondaire. Donc en fait, faut répondre oui, toujours, malheureusement. Voilà, et heureusement qu'il y a des gens qui sont en train de combattre tout ça. C'est le Russian LGBT Network qui tous les jours essaye d'envoyer des informations. Voilà, donc c'est un site qui est géré par Igor Kochetkov, qui est représentant des LGBT de là-bas, de Russie et de Tchétchénie, et qui essaye de faire passer les messages parce qu'ils sont obligés de coder là-bas. C'est très très difficile de pouvoir parler, de pouvoir transmettre des messages, que ce soit au niveau numérique, hein, mais par papier, c'est très très difficile. Et c'est pas le seul sujet qui est passé sous silence là-bas. On parle d'une vraie purge, hein, clairement, parce qu'on est basé sur des suspicions d'homosexualité. Que ce soit avéré ou non, c'est déjà très très grave, mais c'est surtout qu'il y a eu des sortes de rafles en pleine rue à Argun, à Grozny aussi, hein. Et c'est passé sous silence. Et si j'ai pris ces deux sujets qui me touchent, c'est parce que, comme je t'ai dit, mes grands-parents étaient résistants et que, voilà, donc ils ont subi des camps ou ils ont essayé d'en faire sortir des camps. Et voilà, quand je vois qu'en 45, même avant, il y a eu des personnes qui sont battues pour pouvoir sauver des vies et qu'à l'heure actuelle, soit on ne peut rien faire parce que c'est Covid, soit on est complètement fermé, il y a les barrières, les frontières qui sont fermées, quoi. On ne peut rien faire et je trouve que réitérer ces atrocités à l'heure actuelle, c'est pour moi complètement impossible dans ma tête. Je n'imaginais pas que c'était encore probable en 2020.
Est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu échanges avec ta famille, du coup ?
Ouais, tout à fait. Ben, mon frère et moi, moi je suis bi et mon frère est homosexuel, du coup on est vraiment engagés. Et le fait qu'on ait beaucoup de résistants dans la famille, qu'on soit très engagés, voilà, on en discute énormément, on essaie de faire des choses, on essaie de pouvoir communiquer avec des personnes. J'ai des amis russes qui viennent d'arriver à Marseille, par exemple. On essaie de se bouger le cul pour les autres. C'est très difficile, surtout que c'est deux situations, que ce soit les Ouïghours ou que ce soit les homosexuels, les LGBT en Tchétchénie, on ne peut pratiquement rien faire. C'est-à-dire que ni le président français n'intervient, on va dire réellement, c'est-à-dire qu'il ne fait que parler, dit deux, trois mots et c'est réglé, quoi. C'est vraiment passé sous silence et on ne peut rien faire et j'espère pouvoir quand même essayer d'aider.
Et c'est marrant parce qu'un des clichés aussi qu'on a, et sur la Russie ou les pays de l'Est, et sur l'Europe d'ailleurs, c'est que c'est des endroits très homophobes. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Ben, pour le coup, moi j'ai déjà été en Russie, ça se dit, mais j'étais plus à Moscou, donc les capitales, la capitale, les grosses villes comme Saint-Pétersbourg, etc. C'est beaucoup plus toléré, c'est quand on monte dans le Nord, quand on va vers le Caucase, c'est beaucoup plus compliqué à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est des petits patelins ou c'est de l'intégrisme. C'est des gens qui sont très, très ancrés dans les valeurs, on va dire, de droite et d'extrême droite. On n'a pas notre mot à dire, généralement, dans ce genre de région. Et ce que je ressens, c'est que oui, c'est malheureusement, si on se sent obligé de créer des mouvements pour se soutenir les uns les autres et de faire des actions, c'est qu'on n'a pas vraiment de liberté dans ce genre de pays. Il faut qu'on se bouge, quoi. Et heureusement qu'on a ce genre de mouvement, heureusement qu'on peut débattre en France de notre situation. Il faut se bouger les culs, il faut ouvrir les pensées, quoi. C'est difficile encore à l'heure actuelle, mais je pense que si on inculque les bonnes valeurs à nos gosses ou à nos neveux, etc., je pense qu'on peut faire un changement, un réel changement. Il suffit d'attaquer la jeunesse, mais de s'y attaquer des jeunes âges, de donner ces valeurs de tolérance. Ça serait déjà beaucoup plus facile, en fait, si on apprend à un enfant que c'est normal. C'est sûr que c'est plus difficile dans les pays de l'Est. Mais je pense que ça se joue déjà en bas de chez soi. Voilà, il faut déjà voir en bas de chez soi, devant sa porte, essayer de régler le problème en interne et après s'attaquer au reste. Parce qu'on ne peut pas commencer à aller trop loin. Déjà régler le problème, par exemple, pour moi à Marseille, quand on voit un homophobe déjà dans la rue, moi je ne supporte pas, j'interviens toujours. Il faut déjà faire ça dans son cercle restreint. Et petit à petit, on pourra se permettre de faire plus de choses. Ce n'est pas une question qu'on se permet, c'est une question que ça sera plus possible, plus réalisable.
Est-ce que tu penses que cette espèce de préjugé tenace, comme quoi le rap est la musique la plus homophobe, c'est quelque chose d'avéré pour toi ?
C'est un préjugé, mais oui, il y a beaucoup de paroles homophobes dans le rap. Hein. Beaucoup de rappeurs font des je t'encule, des nanana. C'est très difficile en fait de pouvoir dire non, bien que les mœurs changent. On arrive quand même peu à peu à ouvrir les esprits. Il y a des rappeurs homosexuels qui commencent à percer, des transgenres, tout. Ça, c'est génial parce qu'on commence quand même à accepter. Je parle du grand public. Ils commencent à accepter. Le travail n'est pas encore fait. Il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot pour l'acceptation. Mais on se bat tous les jours et je pense qu'au fur et à mesure, ça va se faire.
Parce que moi, ce que je trouve toujours paradoxal, c'est que d'un côté, on dit ça. On dit que le rap est la musique la plus homophobe. Et en même temps, moi, je ne connais pas d'autres musiques qui intègrent autant de personnes queer, LGBT+, etc. Enfin, j'ai l'impression que quand on s'intéresse à cette musique, on se rend compte qu'elle est aussi super inclusive, en fait, peut-être beaucoup plus que la pop.
C'est fédérateur, en fait. C'est fédérateur, tout simplement.
Pourquoi, d'après toi, qu'est-ce qui est plus fédérateur dans le rap que dans la pop ?
Parce que déjà, il y a le message. Il y a le message, le fait qu'on puisse toucher l'auditeur directement à travers son texte. La pop, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est les grosses industries, c'est très surveillé, ça passe en radio. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire, il y a des thèmes qu'on ne peut pas aborder. C'est beaucoup plus limité, on va dire. Après, je pense qu'il y a toujours des exceptions. Mais en l'occurrence, oui, le rap, ça veut dire que ça vient de la rue, ça vient du côté populaire. Et actuellement, c'est le genre de musique le plus écouté. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de transmettre un message à travers cette musique. Après, je n'ai pas le fait que dans l'underground, comme dans le punk, en règle générale, dans l'underground, il y a beaucoup, beaucoup plus de liberté pour les LGBT.
Est-ce qu'il y a une scène queer qui est importante à Marseille ?
Ben, il y a le Garage, qui est en fait un local LGBT, queer, où il y a vraiment, tout le monde est accepté, sauf les hommes hétéros. Si je me souviens bien de ce qu'il m'avait dit, ce que j'avais déjà joué là-bas pour une cause assez triste, que je ne vais peut-être pas aborder parce que ça concerne quelqu'un, je ne sais pas s'il serait d'accord de dévoiler tout ça. Et voilà, donc il y a cette scène-là en l'occurrence. Et il y a beaucoup de lieux comme le Dans la Mifa, etc., qui sont très ouverts d'esprit et qui sont dans une tolérance totale. Après, voilà, on n'est pas encore sur de grandes scènes. Il y aura peut-être des artistes qui vont jouer dans de grandes scènes, mais en tout cas, c'est des petits lieux pour l'instant.
Dernière question que j'avais envie de te poser, est-ce que tu as été impactée fortement par le Covid et cette pandémie ?
Forcément, ça m'a empêché de tourner des clips, ça m'a empêché d'aller au studio. J'ai dû mettre beaucoup de choses en stand-by, voilà, mais malgré tout, on essaie de se bouger, faire des choses. Je pense que voilà, on a mis beaucoup trop de choses en stand-by et qu'on ne peut pas laisser trop de temps devant nous non plus. Il faut quand même se motiver, il faut faire des actions, il faut pouvoir se développer en tant qu'artiste, même s'il n'y a plus de concerts, même s'il y a toujours une manière de partager. C'est-à-dire que moi, la musique, c'est avant tout partage et elle est bien aussi. Donc voilà, j'ai des dérogations pour aller au studio, je fais en sorte de pouvoir avancer sur mon album et sur mon projet qui va sortir bientôt. Là, pour les clips, pareil, hein, on nous autorise maintenant à le faire, mais c'est plus compliqué en mars. Mais voilà, je pense que ça va se débloquer, cette situation.
Parce que toi, du coup, ton activité d'artiste, c'est ton activité à plein temps ?
J'avais un job alimentaire, mais j'accorde énormément de temps, que ça soit à la musique ou au sport. Et après, en-delà de ça, comme il n'y a plus de concerts, c'est ce qui me payait, hein, on va pas se mentir, c'est les concerts, hein. Comme tous les artistes, on a dû trouver quelque chose en parallèle, quoi.
J'ai vu que tu faisais des ateliers aussi pour des ados ou des jeunes.
Exact, bah, ça m'a stoppé, je faisais ça avec les écoles, notamment avec l'action d'Astorm, mais aussi à Marseille avec Pressen 13. Donc aussi dans la rue, comme ça, en sauvage, ou en mode, il y avait un thème avec Dastorm, je me rappelle, c'était le rap, c'est pas pour les meufs. Et le but étant, c'est de transmettre justement cette valeur de tolérance, de permettre aux gamins de s'exprimer et d'écrire un texte sur ça. Et le projet, c'était de les faire enregistrer un morceau à la fin de l'année. Bon, chose qui n'a pas pu être faite à cause du Covid, mais j'espère qu'on va pouvoir continuer ou reprendre en tout cas ce projet, ce qui a été magnifique.
Rendez-vous en 2021 pour les nouveaux projets.
Exactement.
Merci beaucoup pour ton temps et à très vite et belle fin d'année d'ici là.
Merci à toi, gros big up à Madame Rap, ça fait plaisir.